Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une affaire criminelle, disons un peu exotique, puisque c'est un crime qui est commis en Nouvelle-Calédonie, en 2002, aux abords d'une baie qui s'appelle la baie de Canumera. Il s'agit du meurtre d'une jeune touriste japonaise qui s'appelait Mika Kusama. Mais vous allez me dire, un meurtre est un meurtre? Qu'est-ce que ça change qu'il ait été commis en Nouvelle-Calédonie? C'est la France, la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, vous verrez, c'est la France, mais ça ne marche pas complètement pareil. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
À la Nouvelle-Calédonie, les plages de sable blanc, l'eau émeraude et cristalline, le récif corallien, le paradis, quoi. Et là, nous sommes dans le paradis des paradis, l'île des Pins, un atoll de 14 km sur 18 km. La douceur de vivre à l'état brut. Mais vous vous doutez que je vais casser un peu l'ambiance, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'empêcher de transformer le paradis en enfer. Je me soigne, hein, mais pour l'instant, c'est un échec. Sur cette île des Pins se trouve un gîte pour les touristes, le gîte de Couberquin. Nous sommes le 2 mai 2002 en fin de soirée et la gérante est inquiète, au point d'appeler la gendarmerie de Couteau. C'est au sujet d'une jeune japonaise qui voyage seule. Elle a pris un bungalow ce matin, elle devait dîner ici, elle m'a même commandé des langoustes. Et ben, ça fait des heures que je l'attends et j'avoue que je commence à être un peu inquiète, hein.
Mais ne vous inquiétez pas, la pluie ne va pas tarder, elle finira bien par rentrer. Elle s'appelle comment, votre japonaise?
Kusama. Mika Kusama.
Bon d'accord, rappelez-nous demain, hein, s'il est toujours pas rentré.
Et le lendemain, elle n'est pas réapparue. La gérante rappelle donc les gendarmes. C'est toujours pas de nouvelles, hein. Alors ce matin, elle avait réservé une sortie en pirogue. Le piroguier vient de m'appeler. Il l'a pas vue non plus.
Bon, elle s'appelle Mika Kusama, hein, d'après ce que vous m'avez dit hier. Vous pouvez me la décrire?
Oh, elle a 29 ans, d'après ses papiers. Elle est charmante, hein. Les cheveux noirs, longs, plutôt fluette. Et quand elle est partie hier matin, elle portait une robe... jaune, je crois, oui, jaune. Et elle parle français, pas trop mal. Les gendarmes de Couteau vérifient les registres des bateaux qui assurent la liaison avec l'île des Pins. Elle n'a pas quitté l'atoll, qui est une île de 155 km². On devrait la retrouver vite. Les gendarmes débarquent donc au gîte de Couberca. Bonjour, madame. Vous pouvez nous montrer son bungalow? Elle n'y a pas dormi une minute. Mais elle a laissé ses affaires, suivez-moi. Des vêtements, bien sûr, un agenda, un paquet de cigarettes et une canette de bière. Bon ben, on va signaler sa disparition au parquet de Nouméa, hein, et puis on va se mettre à sa recherche. Le parquet ouvre aussitôt une enquête pour disparition. Et les gendarmes de Couteau se lancent à la recherche de la jeune Mika. 155 km², ça n'est pas grand en effet. Mais eux, ils ne sont que quatre. Alors assez vite, ils font appel aux habitants. Et puis au bout de deux jours, à un hélicoptère. Mais toujours aucune trace de la japonaise. Bon, ben il nous reste plus que Canumera. Ah non, tu sais bien Canumera, on peut pas y aller comme ça, hein. La baie de Canumera, tout près de celle de Couteau, cache un petit îlot rocher d'un demi-hectare, accessible à pied à marée basse. Et là où l'autre a raison, c'est qu'en théorie, ce petit îlot corallien est français, comme tout le reste de la Nouvelle-Calédonie. Mais en pratique, disons que ça n'est pas si simple. Car le clan Konu, qui est rétif à la colonisation française, a décidé que ce rocher était à lui. Et donc, pour les gendarmes, débarquer sur cet îlot comme ça, c'est impensable. Hein? Pensable. Et pourtant, d'après ce qu'on dit, il s'en passe des trucs sur ce rocher. Toute une faune s'y est installée, toute une tribu de traînes savates. Officiellement, ils sont là pour renouer avec la culture kanak séculaire, le tressage, la sculpture. Mais en vérité, d'après ce qu'on dit, ils consacrent essentiellement leur temps à cultiver du cannabis et de la datura, l'herbe du diable. Si les gendarmes veulent y mettre les pieds, ils doivent d'abord négocier avec les deux grandes gueules qui défendent leur bout de terre. Ambroise, dit Didim, le chef du clan Konou, et Antoine Konou, son frère. Les Konou étant l'une des 8 familles ancestrales de l'île des Pins. Et donc les gendarmes négocient, et les voilà sur le rocher de Kanoumera. Et après 4 jours de recherche, avec l'aide des habitants de l'île, au pied d'un arbre, ils tombent sur un cadavre calciné. Et regarde, c'est la chinoise. C'est pas une chinoise, banane, c'est une japonaise. Son cadavre est en partie dénudé. Il est entouré de pierres et recouvert de branchages, comme pour un rituel. Les gendarmes retirent les branchages. La jeune japonaise a le côté droit du visage fracassé et le thorax enfoncé. Ah ! Un détail qui aura son importance plus tard. Ça n'est pas un homme du clan Konou qui a découvert le cadavre. C'est un homme du clan Kouaté, le clan rival. Et le lendemain, c'est encore un homme du clan Kouaté qui repère les affaires de la jeune japonaise dans le trou d'un rocher. Bon, alors on a un guide touristique, des claquettes, des lunettes, une serviette de bain, un paquet de cigarettes et les restes d'un appareil photo qui manifestement a été volontairement détruit. Hein. L'autopsie, malheureusement, n'apporte pas beaucoup d'éléments. Le corps est beaucoup trop abîmé par le feu, hein, et par la putréfaction. Je ne peux même pas vous dire si elle a été violée. Maintenant, regardez. Regardez la partie droite du visage et le thorax. Ils ont été écrasés par un objet lourd et couvert d'arêtes. Moi, personnellement, j'opterais pour une pierre corallienne. Et là, j'appuie sur pause pour faire le point. Qui a pu commettre le crime? Les frères Konou? Ah ben, c'est leur île, non? Et puis, ils ont un passé, les deux frérots. Un jour, ils s'en sont pris à des touristes qui avaient eu l'outrecuidance de vouloir visiter leur îlot. Et ils ont été condamnés pour ça. Et Antoine Konou, avec sa barbe hirsute qui lui remonte jusque sous les yeux, a déjà été condamné pour viol. Et puis il y a autre chose. Tous les habitants de l'île des Pins ont participé aux recherches, sauf le clan Konou. C'est pas bizarre, ça? C'est pas suspect? D'autant qu'on commence à avoir des témoignages. Quelqu'un a vu Antoine Konou en compagnie de la japonaise le matin du 2 mai à 10h15. Et un autre a vu le même Antoine Konou avec au doigt une bague de la japonaise. Il l'a décrite, cette bague. Et ça colle. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à arrêter les frères Konou. Le lendemain de la découverte du cadavre, les gendarmes de Kuto, épaulés par des gendarmes mobiles, encerclent la maison des Konou. Didim Konou se rend sans résister. Mais comme par hasard, son frère Antoine prend la fuite. Rassurez-vous, il est vite rattrapé. Et les voilà tous les deux en garde à vue à la gendarmerie de Kuto. Monsieur Ambroise Konou, vous pouvez nous donner votre emploi du temps pour la journée du 2 mai ? Qu'est-ce que vous venez me chercher des histoires? Ça vous a pas suffi de nous prendre nos terres au 19e siècle? Ça n'est pas la question que je vous pose, monsieur Konou. Je vous parle de votre emploi du temps le 2 mai. Un emploi du temps? Est-ce qu'on a un emploi du temps, hein? Chez nous, il n'y a pas d'emploi du temps. Coriace. Et le petit frère Antoine aussi. Antoine, quelqu'un dit qu'il t'a vu avec la japonaise jeudi matin. Mais c'est faux, ça. Moi, je sais pas qui c'est, cette japonaise. Une autre personne t'a même vu avec sa bague au doigt. Mais c'est pas possible, ça. Regardez mes mains. Vous voyez que je peux pas enfiler la bague d'une japonaise. Les gendarmes regardent ses mains et ce sont de grosses paluches. Sur ce coup-là, il n'a pas tort. Les frères Konou sont toujours devant les gendarmes. Et la chose assez inhabituelle, le juge d'instruction demande à un psychiatre d'expertiser les deux frères pendant la garde à vue. Enfin, d'habitude, les expertises psychiatriques ont lieu beaucoup plus tard, pendant l'instruction. Mais là, c'est tout de suite.
Bon, eh bien, je vais vous envoyer mon rapport, hein. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que ils ont des personnalités que l'on qualifie généralement de psychopathiques, avec tout de même un potentiel d'agressivité nettement supérieur à la normale, une intolérance à la frustration qui est digne d'un enfant de 3 ans, je dirais, une prédisposition au déni, et par ailleurs un goût assez marqué pour l'alcool et les stupéfiants. Hein.
Bon, ben la messe est dite. À la fin de leur garde à vue, les frères Konou sont envoyés à Nouméa devant le juge d'instruction, qui les met tous les deux en examen pour meurtre, et les envoie au Niouf. Le lendemain, un homme vient apporter à la brigade deux grosses pierres tachées de sang. Il les a trouvées. Et c'est encore un couaté. Je les ai trouvées sur le rocher de Kanoumera. Et le laboratoire de Nouméa confirme que le sang est celui de la japonaise. Ces deux pierres seraient donc les armes du crime. Décidément, les couatés sont une aide précieuse pour cette enquête. Dans la foulée, plus d'une centaine de témoins sont interrogés.
Oh, moi, je l'ai vue dans la journée du 2. Elle avait une robe jaune. Moi aussi, je l'ai vue. Elle était main dans la main avec un blanc.
Et ça? Ça, ils sont plusieurs à le dire. Mais il y a un problème. Il y a deux autres japonaises sur l'île en ce moment. Et toutes les deux sont en couple avec un blanc. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas confondu? Mais bon, explorons cette piste. Et écoutons ce nouveau témoin.
Le blanc, là. Il avait les cheveux très très courts.
Très courts comme un militaire? Ça, c'est très intéressant parce que sur l'île des Pins, justement, il y a une base militaire, l'IGSA. Et en ce moment, 80 soldats s'y reposent après une mission de 3 mois en Afrique. Alors les gendarmes vont voir l'officier qui les commande.
Ah, ça n'est pas possible. Aucun de mes hommes n'a quitté la base depuis le 2 mai.
S'il le dit, on le croit. D'autant qu'on a les frères Konou. Le problème, c'est que les gendarmes viennent de recevoir les résultats des analyses ADN. Ils espéraient qu'on trouverait l'ADN du ou des tueurs sur le corps de la jeune Mika. Macache. Et aucune trace non plus de l'ADN de la japonaise sur les frères Konou, sur leurs affaires et dans leur barque. Du coup, leurs avocats montent au créneau auprès du juge.
Enfin, leur incarcération est abusive, monsieur le juge. Vous n'avez aucune preuve valable de leur culpabilité.
Ça n'est pas faux. Résultat, Didim, le chef du clan, est libéré. Mais pas son frère Antoine. Et ça s'explique peut-être parce que, en tant que chef, Didim a pu se payer un bon avocat. Alors que son frérot a dû se contenter d'un avocat commis d'office. Et puis, Didim a donné au juge un alibi. Et pas Antoine. Et puis Antoine, je vous l'ai déjà dit, a été condamné quand il avait 16 ans pour le viol de sa petite amie. Mais bon, avec tout ce que je vous ai raconté depuis le début, il n'y a pas beaucoup de doutes sur leur personnalité à l'un et à l'autre. À l'exception de 2 ou 3 points qui sont incohérents. Si les frères Konou sont coupables, pourquoi est-ce qu'ils ont laissé son corps sur leur rocher? Ils devaient se douter qu'on allait immédiatement les incriminer. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas transporté le corps d'un coup de barque sur l'île des Pins? Ou pourquoi ne l'ont-ils pas balancé à la mer, au-delà de la barrière de corail? Ça aurait fait la joie des requins. Ça ouvre une porte, tout ça. Et si quelqu'un avait volontairement transporté le corps de la jeune Mika Kusama sur le rocher des Konu pour les faire tomber? C'est une hypothèse qui tient la route. Mais ça n'intéresse pas beaucoup le juge d'instruction qui décide, après moins de 2 ans d'enquête, de renvoyer les deux frères Konu devant la cour d'assises. Le procès s'ouvre le 16 février 2004 à Nouméa. Et il commence par un coup de théâtre signé des avocats des Konu. Nous constatons que les scellés, qui sont ici dans ces 2 sacs poubelles et qui contiennent les effets de Mademoiselle Kusama, n'ont jamais été analysés. C'est assez surprenant, n'est-ce pas? Et donc, dans le cadre de l'instruction, je dirais que c'est intolérable.
Pas faux, ça.
Bien, monsieur le greffier. Veuillez procéder à l'ouverture des scellés.
Dans le premier sac, on trouve les affaires de la victime, celles qu'on a trouvées dans un trou du rocher de Kanoumera. Et puis dans l'autre, les affaires saisies dans le bungalow du gîte de Kouberka. Plus un échantillon de terre prélevé sous le cadavre.
Enfin, monsieur le président, il est parfaitement hallucinant que tous ces éléments n'aient pas été exploités. Nous vous demandons, monsieur le président, d'interrompre ce procès sans preuve et de demander un supplément d'information.
Et les avocats obtiennent gain de cause. L'instruction a été bâclée, le procès est ajourné. Prière de reprendre l'enquête. Assez vite, Antoine Konu, qui est en taule depuis 3 ans et 4 mois, est libéré. Et il rejoint son frère aîné sur l'île des Pins. Et le juge se met à exploiter les fameux scellés. Rendez-vous compte, même la pellicule de l'appareil photo jetable et fracassé retrouvée près du cadavre n'a pas été développée. C'est assez dingue. Alors on développe la pellicule. Elle ne contient pas grand-chose d'intéressant. Des photos comme tous les touristes en prennent. Le lagon vert émeraude, la nature luxuriante. On envoie les photos aux parents de la jeune Mika au Japon.
C'est très étonnant. Habituellement, notre fille ne prenait pas ce genre de photos. Des paysages, ça ne lui ressemble pas. Notre fille prenait des photos des gens plutôt.
Et là, hypothèse. Et si cet appareil photo jetable retrouvé près du cadavre n'avait rien à voir avec le crime, s'il avait appartenu à quelqu'un d'autre? Les mégots, maintenant, retrouvés près du corps. Le juge les envoie au labo avec pour mission de dégager de l'ADN.
Désolé, hein. On a trouvé des ADN inconnus, mais qui ne sont pas les ADN des deux frères Konu. Hein.
Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Ensuite, on procède à la traduction de l'agenda de la japonaise. Il s'avère que c'est une sorte de journal intime dans lequel elle parle de garçons. La police nippone est mise à contribution.
« We would want to know if one of her boyfriend was in Caledonia in May 2002. »
Est-ce que l'un de ses petits copains était en Nouvelle-Calédonie à l'époque? La réponse est non. Les petits copains sont restés au Japon. Reste l'échantillon de terre prélevé sous le corps de la victime. Cette terre, le juge jusqu'ici n'avait pas pensé à la faire analyser. C'est dingo! Et l'analyse détecte la présence d'un accélérateur de feu. Et ça, c'est typiquement le genre de produit qui est utilisé par les soldats pour démarrer le feu lors d'un bivouac. Retour donc de l'hypothèse de l'implication de militaires de la base de l'IGSA, qui entre-temps sont rentrés chez eux, bien sûr.
Alors est-ce que pour autant il faut absolument les chercher? Ça serait un travail titanesque. Et sans doute pour rien, parce que finalement il n'y a pas que les troufions qui utilisent ce genre de produit à base de white spirit pour allumer un feu. Bon ben, on n'a pas beaucoup avancé, hein. Pile à ce moment-là, apparaît un témoin qui veut rester anonyme.
Je souhaiterais attirer votre attention sur une personne qui réside à Nouméa, un banquier de Nouméa. Il vient régulièrement sur l'île des Pins pour faire du surf ou du bateau. Et en général, il est très entreprenant avec les jeunes femmes qu'il croise sur l'île des Pins. Et quand elles le repoussent, il peut être très agressif et même violent.
Que faire de ces accusations 3 ans après? Pas facile. Bon, ben, on l'arrête et on le place en garde à vue.
Mais enfin, je vous dis que j'ai rien à voir avec cette histoire, moi. Pourquoi j'irais brûler une japonaise? Écoutez, je suis en plein divorce, hein. Et ma femme est capable de tout pour récupérer la garde de nos enfants, y compris de payer de faux témoins pour me faire endosser un meurtre.
Les gendarmes libèrent le banquier au bout de 4 heures de garde à vue. Bien, il est temps de clore l'instruction. Mais avant de retourner devant les assises, l'avocat de la famille de la japonaise demande à ce que le juge d'instruction organise un déplacement sur le rocher de Kanoumera. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il sait que les avocats des frères Konou vont défendre que la japonaise a été tuée avant d'être transportée sur le rocher, qu'ils vont dénoncer un coup monté avec des arguments qu'ils ont déjà fait entendre dans les médias. Vous noterez que le corps n'a pas été retrouvé lors de la première fouille, ni de la deuxième fouille, mais seulement à la troisième fouille. Alors que le cadavre se trouvait finalement au bord de l'unique sentier qui passe à travers la jungle du rocher. Alors peut-être me direz-vous qu'ils ne l'ont pas vu. Mais ils auraient pu le sentir, enfin. 3 jours en climat tropical, même si le corps était dissimulé sous des branchages. Ils auraient été alertés par l'odeur. L'odeur du cadavre décomposé, sans parler des mouches. Ce que nous disons, c'est que si les gendarmes n'ont pas vu le cadavre à leur premier et à leur deuxième passage, eh ben c'est qu'il n'y était pas encore. C'est qu'on l'a mis après pour incriminer nos clients.
Et donc, pour barrer la route à ce raisonnement, l'avocat de la famille de la japonaise veut démontrer avant le procès qu'il est impossible d'avoir amené le corps là, après le meurtre, qu'elle a forcément été tuée sur place.
Mais voir. Regardez, monsieur le président. Si on avait voulu amener le cadavre ici, il aurait fallu passer par cet escalier. Et vous voyez l'état des marches? Pour descendre cet escalier, vous constatez qu'il faut se tenir sur le rocher avec les mains. Comment voulez-vous que quelqu'un, et même 2 personnes, aient pu transporter un cadavre ici? C'est impossible, monsieur le juge, c'est impossible. Elle a forcément été tuée là où on l'a trouvée.
L'avocat d'Antoine Konou, qui défend lui l'idée que quelqu'un d'autre a tué la japonaise et qu'on a voulu faire porter le chapeau aux frères Konou en portant le cadavre sur leur territoire, n'est pas du tout convaincu par la démonstration.
Moi, je dis qu'un homme en forme peut très bien avoir gravi le rocher en portant le cadavre sur son épaule. J'en suis convaincu.
Pourquoi pas? Mais est-ce que les frères Konou, qui interdisent à quiconque l'accès à leur rocher, ont laissé passer un type avec un cadavre sur son épaule? Même si des tas de gens racontent qu'ils sont allés s'y promener sans être vus. Les frères Konou ne surveillent pas le rocher 24 heures sur 24. Sommés de s'expliquer, l'un des gendarmes qui a procédé aux premières fouilles du rocher tente de se justifier.
Il était peut-être là, ce cadavre, hein, quand on est passé la première fois et la deuxième fois. Alors vous dites qu'on aurait dû le sentir. Mais il avait beaucoup plu ce jour-là. Et la pluie avait lavé la scène de crime et sans doute éloigné les mouches. C'est pour ça qu'on l'a pas senti.
Pourquoi pas? Mais il y a quand même un élément qui joue en faveur des frères Konu. On sait que la japonaise a été violemment frappée sur le thorax avec des pierres coralliennes. Or, des pierres coralliennes, il y en a aussi partout sur le sol. Si elle a été tuée sur place, en tombant, son dos aurait dû être marqué. Or, quand on regarde les photos du cadavre, il n'y a pas de marque sur le dos. Ce qui semble indiquer qu'elle a été tuée ailleurs que sur le rocher. Autre chose qui joue en faveur des frères Konu, la violence des coups portés aurait dû faire couler beaucoup de sang. Or, on n'en a pas trouvé, ou si peu. Est-ce que ça n'est pas le signe qu'elle a été tuée ailleurs, par d'autres? Réponse des avocats de la famille japonaise. Enfin, il a plu à torrent dans la nuit du 2 au 3 mai. Le sang s'est écoulé avec les eaux de pluie, voilà tout. Bref, le procès va être chaud. Les deux camps ont des arguments. Et je vous défie de présumer du verdict. D'autant que les avocats des frères Konu ont recueilli les témoignages de dizaines de personnes qui disent avoir vu Antoine Konu à des kilomètres du lieu du crime ce jour-là. Rien n'est gagné. Pour personne. Le procès s'ouvre le 28 novembre 2007, 5 ans après le meurtre de la touriste japonaise, devant la cour d'assises de Nouméa. Dans le box des accusés, Antoine et Ambroise Konu présentent bien. Antoine Konu n'est plus le barbu hirsute des débuts de l'enquête. Il s'est rasé, il s'est coiffé, il a laissé pousser sa moustache. Et ma foi, il a belle allure. Autant vous dire que le procès est assez chaud. Les avocats des deux parties sont déchaînés. Et les accusés qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer en public sont un peu paumés. Moment marquant, le témoignage à la barre de l'expert psychologue qui a qualifié les frères Konu de psychopathes, incapables de gérer leurs émotions. Harcelés de questions par les avocats des Konu, ils piquent une crise de nerfs, figurez-vous. Et ça fait bien marrer la salle. Après 3 semaines et demie d'un procès très violent, l'avocat général requiert l'acquittement pour Ambroise Konu, mais 20 ans de réclusion pour Antoine Konu. Après 7 heures de délibéré, Ambroise Konu est effectivement acquitté et son frère Antoine prend 15 ans. Mais bien sûr, le parquet fait appel de l'acquittement d'Ambroise et Antoine fait appel de sa condamnation à 15 ans. Il y aura donc un deuxième procès. Et en attendant, Antoine Konu est envoyé derrière les barreaux. Mais à la faveur d'une erreur dans la rédaction du mandat de dépôt, il est libéré après 5 mois de détention. Dans l'attente du procès en appel, les deux frères s'organisent. Un comité de soutien aux accusés est monté. Un site internet leur est dédié, ainsi qu'une page Facebook. Et de nombreux artistes du coin leur apportent leur soutien. A priori, ça ne devrait pas peser sur la cour d'assises. Mais allez savoir. Leur procès en appel débute le 14 avril 2009, 7 ans après le meurtre de Mika Kusama. Au banc des accusés, les frères Konu ont beaucoup changé. Depuis 2 ans, ils ont appris à se défendre. Et il devient difficile de voir en eux les sauvages décrits par l'accusation. Et le médecin légiste leur apporte un sacré coup de main.
J'avoue que je suis surpris qu'à l'endroit où le corps a été retrouvé, on n'ait pas trouvé une mare de sang. Au regard des blessures, ça me paraît très improbable.
Et forcément, ça vient renforcer la théorie d'un meurtre commis en dehors du rocher, par d'autres personnes. Et ça explique le verdict. Au terme 1 heure et demie de délibéré, les deux frères Konu sont acquittés du meurtre de Mika Kusama. À cette annonce, le clan Konu explose de joie. Et nous, On ne saura jamais qui a tué la japonaise.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.